Je vais juste, ça va, vous m'entendez, parce que j'ai pas beaucoup de voix, donc je vais juste aborder deux points pour qu'on puisse ensuite passer à la discussion. Le premier, c'est, disons, tout ce qui tourne autour de l'aspect biblique et puis le magistère de l'Église, voilà, enfin, ce que l'Église peut dire sur ces questions-là. Et puis, deuxième point, une petite vision personnelle, comme jésuite économiste, sur la situation financière. Bertrand en a déjà parlé, je rajouterai juste deux ou trois éléments personnels. Premier point, disons, la référence biblique. Donc je rejoins évidemment tout à fait ce qui a été dit par mon frère qui lui lit plutôt ce que nous appelons le Premier Testament, et puis voilà, donc nous on lit le premier et puis le deuxième, donc on se situe complètement dans la continuité du premier par rapport à ce qui a été dit par exemple sur le Isaïe 58, hein, ce grand texte du livre d'Isaïe, c'est-à-dire ce qui est premier c'est le lien social et en particulier le lien avec le plus pauvre, la veuve et l'orphelin. Et donc on retrouve ça dans l'évangile par exemple à travers une parabole que certains d'entre vous connaissent sûrement, la parabole de l'intendant astucieux ou malhonnête ou avisé chez Saint-Luc, qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Cet intendant, il gère le capital de son maître. C'est un banquier. Ce capital a été géré de telle sorte que cet homme a beaucoup de créances. Les créanciers, les débiteurs n'ont pas forcément les moyens de rembourser. On peut penser à la Grèce, par exemple. Et ce gérant a quand même mal géré, comme l'ont fait beaucoup de banques, la plupart, j'insiste là-dessus, puisque vous entendez sûrement dire un certain nombre de banques qu'elles ont très bien fait leur métier, il ne faut surtout pas y toucher et les laisser faire leur métier tranquillement. Je ne suis pas de ceux qui croient que les banques, y compris les banques françaises, ont bien fait leur métier. Et donc ce gérant, dans la parabole, remet les dettes d'une partie des débiteurs de son maître pour se faire des amis le jour où il sera viré par son maître, si vous vous souvenez de cette parabole. Et le Christ, dans l'évangile de Luc, fait la louange de cet homme. Oui. Pourtant, il remet les dettes, et c'est pour se faire des amis. Et donc, une interprétation possible, c'est le lien social est premier par rapport à nos soucis de comptabilité et de respect des dettes et des créances. Et je pense que c'est quelque chose dont on pourrait se souvenir aujourd'hui quand on pense à la Grèce, vu ce que vit la Grèce aujourd'hui. Je suppose que vous êtes au courant, mais je le redis, la Grèce vit une tragédie humanitaire en ce moment. La Grèce régresse à l'état d'un pays d'Afrique subsaharienne, en ce moment, à l'heure où nous parlons. Hein. 200 000 personnes ont quitté Athènes, la moitié des magasins ont fermé, il n'y a plus de médicaments dans les pharmacies, dans les hôpitaux, et il semblerait, information qui est toujours à confirmer, mais voilà, pas démentie, qu'un certain nombre de pères de famille grecs s'inoculent le sida pour récupérer les allocations réservées aux séropositifs, qui sont les dernières qui n'aient pas été supprimées. Donc je crois qu'il faut être conscient de ça. Je veux dire, la Grèce vit une vraie tragédie, sans jeu de mots. Et ce qui me soucie, moi, aujourd'hui, c'est que si nous continuons dans les plans d'austérité que nous menons en ce moment en Europe, j'attends le tour de la France. C'est-à-dire, comme l'a dit Bertrand, nous sommes soumis actuellement aux mêmes aléas des marchés financiers que la Grèce. Parce qu'entre nous, pour un économiste, moi je suis économiste, la Grèce, c'est 2% du PIB européen. C'est rien du tout, la Grèce. Il n'y a aucune raison de faire tout un fromage sur la Grèce, mais vraiment aucune. Je veux dire.
C'est moins que les Hauts-de-Seine.
Comment ?
C'est moins que les Hauts-de-Seine.
C'est moins que les Hauts-de-Seine, c'est rien du tout la Grèce. Et on est en train de mettre par terre toute la zone euro à cause de ça, parce que les marchés financiers se déchaînent. Mais je vous préviens tout de suite, il n'y a aucune raison que nous soyons épargnés. Ben, strictement aucune. Nous, on est à 87-88% de dette de PIB. On va arriver à 90% gentiment, très rapidement. Les plans d'austérité que nous allons avoir ne serviront à rien, je vous le dis tout de suite, c'est mon opinion, hein. Ils ne servent à rien, ils ne permettent pas de réduire la dette publique. La meilleure preuve, c'est la Grèce. Hein. On lui inflige des plans d'austérité qu'aucun pays européen n'a jamais éprouvé, et sa dette continue d'augmenter. Au point que la seule solution, c'est, ce qui a été fait il y a un mois maintenant, d'obliger les créanciers à y renoncer à une partie de leur dette, de leurs créances. Donc là, on se souvient de la parabole de l'intendant malhonnête, et on se dit finalement, pour sauver le lien social, il n'y a pas d'autre issue que de remettre les dettes. Oui. Bon, c'était ma. Je vais très vite, hein, mon point sur la Bible. Le magistère de l'Église. L'Église, depuis le IVe siècle, interdit le prêt à intérêt. Donc avant l'islam. Petite boutade pour mon ami. Et elle n'est jamais revenue sur cette interdiction. Et l'interdiction du prêt à intérêt figure, si vous voulez, dans le degré d'autorité et de gravité de ce que l'Église, au long de ses 2000 ans d'histoire, a interdit, ça fait partie de ce qu'il y a de plus grave. parce que vous avez un pape au XIe siècle qui a déclaré que toute personne qui ferait l'apologie du prêt à intérêt serait déclarée hérétique. Hérétique, ça veut dire qu'on touche au cœur de la foi. C'est pas une petite affaire disciplinaire, vous voyez, on demanderait aux gens de se brosser les dents et puis de ne pas faire de prêt à intérêt. C'est aussi grave que de dire que le Christ n'est pas Dieu pour les chrétiens. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'Église ne le dit plus. Elle ne le dit plus depuis, en gros, le début du XIXe siècle. Vous avez une circulaire qui a été envoyée par l'Inquisition aux confesseurs, leur disant, écoutez, cher père, à partir d'aujourd'hui, c'est plus la peine d'embêter les personnes qui se confessent chez vous parce qu'elles font des prêts à intérêt qui assassinent leurs débiteurs. Laissez-les tranquilles. Donc, si vous voulez, c'est une tolérance disciplinaire. Mais l'affirmation dogmatique que prêter à intérêt... Parce que on est au début de la révolution industrielle et que le secteur bancaire est en train de se développer. On est au début de la civilisation que nous connaissons, nous. Et il est essentiel qu'ils puissent prêter à l'industrie pour se développer, etc. À ce moment-là, l'Église tolère. Voilà. Mais le seul point sur lequel je voudrais insister, c'est... Et alors, c'est la dernière encyclique qui l'interdit de manière formelle, c'est 1745, c'est « Vix pervenit ». Donc, ce n'est pas si ancien que ça, ce n'est pas des vieux textes, vous voyez, du Moyen-Âge, enfin bon, voilà. Récemment, qu'est-ce qu'a dit l'Église ? Il y a deux points que je retiens. Il y a une grande déclaration du Conseil pontifical Justice et Paix, qui est un organe d'assez haute autorité à Rome, qui date de décembre dernier, qui demande trois choses. La mise en place d'une taxe Tobin, en gros, la séparation des métiers bancaires, et j'insiste là-dessus parce que vous savez sans doute que nos banques françaises sont vent debout contre cette réforme, alors que l'Angleterre avance beaucoup sur ce point-là.
Je rappelle les deux métiers.
Je vais très vite. La séparation du métier banque d'investissement d'un côté, banque de dépôt de l'autre. Banque de marché financier d'un côté, si vous voulez, et banque de dépôt, celle que nous avons au coin de la rue, que nous pratiquons tous. Je simplifie. Et troisièmement, la recapitalisation sous condition des banques. C'est-à-dire, si une banque est en faillite, on la recapitalise, c'est sûr, on ne va pas la laisser faire faillite, parce que c'est gravissime de laisser une banque faire faillite, mais l'État a un droit de regard sur l'usage qui est fait de l'argent du contribuable et qu'il prête à la banque. Ce qui n'est pas du tout ce que nous avons fait en 2008. En 2008, nous avons prêté de l'argent aux banques et l'État s'est bien gardé de mettre le bout de l'orteil dans les conseils d'administration des banques. Alors qu'il aurait pu le faire. 31 décembre 2008.
Pardon ? Les Anglais l'ont fait, c'est ça ?
Les Anglais ont nationalisé leur banque en faillite. On n'est pas dans la même cour. Les Anglais ont nationalisé. Nous, nous n'avons même pas osé mettre l'orteil dans le conseil d'administration, estimant, je ne sais pas quoi, que c'était péché, vous voyez. Après, il y a une deuxième déclaration, qui est une déclaration de la COMEC, la Conférence européenne des évêques, à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer, enfin la rédaction de laquelle j'ai pu participer, qui demande de nouveau la mise en place d'une taxe Tobin. Donc l'Église catholique est très claire sur ce point, et qui se prononce en faveur d'une accélération de l'intégration budgétaire et politique en Europe. Donc les évêques européens, si vous voulez, ont pris un parti extrêmement, qui les engage, audacieux, qui est de dire, nous on croit à l'Europe, et on croit à l'Europe politique, et on croit qu'il faut avancer vers l'intégration politique. Ce qui suppose pour nous autres Français un consentement, en tout cas un débat politique, sur notre consentement éventuel ou non, à renoncer à une partie de notre souveraineté politique. C'est bien ça qui est en jeu. J'en ai fini avec mon premier point. Deuxième point, une petite lecture de ce qui se passe actuellement. Mon point de vue, c'est que, et Bertrand l'a dit, c'est-à-dire, nous avons fait très peu de choses pour réformer les marchés financiers depuis 4 ans. Nous aurions pu faire beaucoup, et je ne dis pas que rien n'a été fait. Un certain nombre de mesures ont été prises. Par exemple, une grande décision vient d'être votée la semaine dernière par le Parlement européen, qui me semble aller tout à fait dans le bon sens, qui oblige à davantage de transparence des marchés financiers. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très, très insuffisant. Nous n'avons absolument pas pris les moyens d'éviter un nouveau krach financier qui me semble inévitable vu ce que nous vivons aujourd'hui. La plupart des banques européennes sont encore dans une immense fragilité. Et c'est la raison essentielle pour laquelle elles ne se prêtent pas entre elles, parce qu'elles ne se font pas confiance. Alors, il y a en fait un bras de fer qui est engagé en ce moment entre le secteur bancaire privé d'un côté, les autorités de régulation de l'autre. Les autorités de régulation ont reçu un peu de pouvoir, un peu de moyens, pas assez, de la part du politique, pour entamer l'énorme chantier qui est de revenir sur tout le processus de dérégulation des marchés financiers qu'on a engagé depuis 30 ans. Le régulateur arrive évidemment beaucoup trop tard sur ces questions-là. Il n'a pas beaucoup de moyens. Alors c'est un peu comme si vous aviez, si vous voulez, des policiers à vélo qui soient chargés de faire respecter le code de la route sur un circuit de Formule 1. Vous voyez? Voilà. Et je dis ça, donc moi j'ai le plus profond respect pour les régulateurs en ce moment, en France en particulier, qui sont des hommes et des femmes extrêmement courageux, qui travaillent comme des fous, mais à qui le politique n'a pas encore confié suffisamment de pouvoir, à mon avis. Donc le seul moyen d'avancer sur ces questions-là, c'est que le politique, à mon sens, tape du poing sur la table et siffle la fin de la récréation sur ces affaires-là. Et donne véritablement au régulateur le pouvoir de faire son travail. Ce qui veut dire prendre position dans le bras de fer engagé entre les banques, qui crient avant même d'avoir mal, et le régulateur. Oui. Ça, évidemment, ça doit se faire au niveau européen, ce serait l'idéal. Si ça ne peut pas se faire au niveau européen, il faut le faire au niveau français. Oui, tout à fait. Absolument. Ouais.
Les Américains ont été à sanction directement.
Oui, tout à fait. Ils ont laissé la banque faire faillite. D'ailleurs, à ce sujet, juste par, c'est un détail, hein, mais je veux dire, je dis ça, excusez-moi, je sors d'une autre table ronde, il y avait un banquier français qui n'arrêtait pas de vanter les louanges du système bancaire français, donc vraiment, je ne peux pas être d'accord. Vous avez sûrement entendu dire que les banques françaises n'ont rien coûté aux contribuables, voire qu'elles ont rapporté de l'argent aux contribuables français. Ce qui est vrai, c'est vrai. Je veux dire, elles ont remboursé, remis sur l'ongle, ce que le contribuable avait prêté. Mais il ne faut pas oublier de dire que le contribuable américain a aussi sauvé la Société Générale. En fait, AIG, le grand assureur américain, qui était en faillite 15 jours après Lehman Brothers, à la fin du mois de septembre 2008, AIG a été renfloué par le contribuable américain à hauteur de 80 milliards de dollars. Sur ces 80 milliards, il y en a au moins 14 qui sont revenus à la Société Générale que AIG devait à la Société Générale. Si le contribuable américain n'avait pas donné ces 14 milliards à la SocGen, c'est nous qui aurions dû les donner. Oui. Donc c'est exact que nos banques françaises ne nous ont rien coûté in fine, mais ça n'est pas vrai de dire qu'elles n'ont rien coûté à personne. Elles ont été sauvées grâce à la générosité du contribuable américain. Bon, je ferme cette parenthèse parce que voilà. Alors, en tant que chrétien, moi je crois que ce qui est très important, et je suppose que je serai aussi soutenu par mes camarades sur ma gauche, que le plus important aujourd'hui, c'est de soutenir le lien social en Europe et la démocratie européenne. Et je pense qu'ils sont vraiment, vraiment en danger aujourd'hui. Vous avez repéré quand même qu'on a fait sauter 3 gouvernements en Europe qui avaient été démocratiquement élus. En Grèce, en Italie et en Irlande. Alors évidemment, en Italie, quand c'est Berlusconi qui saute, tout le monde se réjouit, et moi le premier, bien sûr. N'empêche que Berlusconi avait une légitimité démocratique que n'a pas Mario Monti, quelles que soient les qualités de M. Monti. Vous voyez? Et donc, je ne sais pas si je vous invite à prendre conscience du fait que nous vivons à une époque où, en gros, les marchés financiers font sauter les gouvernements en Europe. Les gouvernements qui n'ont pas l'heure de leur plaire. Alors, j'attends de voir la tête que nous allons faire, nous, en France, le jour où ça nous arrivera. Et il n'y a aucune raison que ça ne nous arrive pas. Je veux dire, nous croire complètement non concernés par ces affaires-là, c'est une illusion terrible, à mon sens. Hein. Vous voyez? Et donc ce qui vaut pour la Grèce aujourd'hui, je pense que nous avons intérêt à nous en préoccuper dès maintenant, parce que quand notre tour sera arrivé, ce sera un peu tard, à mon sens. Et donc là, comme chrétien, je me rappelle à ce moment-là de la parabole de l'intendant avisé, je me dis, ce que nous avons de mieux à faire aujourd'hui, certainement, c'est à mettre sur la table une grande négociation autour de la dette publique européenne, pour éviter le pire. Voilà, je termine en deux phrases encore, excusez-moi. Je crois aussi, comme économiste, que la croissance économique en Europe n'est pas pour demain matin. Pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. Et donc, je vous livre tout de suite ce dont j'essaie de faire la promotion, puis on pourra en discuter si ça vous intéresse. Ce serait un grand plan de transition énergétique et climatique en Europe. Parce que nous avons une énorme contrainte énergétique. Le litre de super à 2 euros, ça fait très longtemps qu'on sait que ça va arriver, et il ne reviendra pas à 50 centimes, ça c'est sûr. Hein. Ça va continuer d'augmenter. Ça, c'est parce qu'on a des contraintes fondamentales liées à l'énergie, liées au fait qu'on n'a pas de ressources énergétiques en Europe et qu'on est dépendant de l'énergie. Donc, je fais partie des économistes qui poussent, y compris auprès des politiques, pour qu'on avance sur cette question-là, question de réindustrialisation européenne, française en particulier, et une réindustrialisation verte. La grande question, évidemment, c'est comment la financer. Le secteur privé, me semble-t-il, hein, n'a pas les moyens de la financer. Enfin, je dis, me semble-t-il, c'est une litote. Hein. La puissance publique a des caisses qui sont vides, et voire est surendettée, donc c'est compliqué de demander ça aux États aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'autre issue que la création monétaire. La création monétaire, c'est immédiatement catalogué comme la planche à billets. La planche à billets, c'est l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est Hitler demain matin. Je vous réponds comme économiste, tout ceci me paraît complètement faux. La planche à billets fonctionne tous les jours et les premiers ordonnateurs de la planche à billets, ce sont les banques privées. Lorsqu'une banque vous accorde un crédit, elle crée de la monnaie qui n'existait pas la seconde d'avant. Je pense que c'est important de le comprendre. Donc l'argent qui a été prêté par les banques à la Grèce n'a rien coûté à ces banques. C'est pas de l'épargne qui provient d'un travail à la sueur du front d'un salarié et qui aurait été donné à un pauvre grec qui en aurait fait n'importe quoi. C'est de l'argent qu'on a créé ex nihilo, à partir de rien. C'est ça le métier d'un banquier. Hein. Un banquier, c'est un homme qui a le droit, parce que l'État lui a donné ce droit, lui a délégué ce droit, puisqu'avant c'était le privilège du roi, qui a le droit de créer de la monnaie. Donc quand il vous accorde un crédit, il crée de la monnaie. Et donc dire que la planche à billets, c'est toujours inflationniste, c'est une ânerie monumentale. Si c'était vrai, il faudrait pendre tous les banquiers tout de suite, parce que ce serait les premières sources d'inflation. Donc c'est faux, c'est complètement faux. Et puis, je termine vraiment par là, Hitler n'est pas arrivé au pouvoir grâce à l'hyperinflation. L'hyperinflation en Allemagne, c'est 1923-1924, sous la République de Weimar. Hitler arrive 10 ans plus tard, Hitler arrive au pouvoir démocratiquement, il est élu. Après 3 ans d'une politique très spéciale mise en place par le chancelier Brüning, que l'histoire s'est dépêchée d'oublier, et qui a fait quoi? Qui a mis en place un grand plan d'austérité pour lutter contre l'inflation. Et donc, c'est ma conclusion, si nous voulons que Marine Le Pen arrive au pouvoir, il faut continuer les plans d'austérité. Voilà.
Merci beaucoup Gaël, même si tu ne nous rassures pas complètement. Bien, avant d'ouvrir le débat et les questions, les interventions, je signale également que pour compléter les interventions d'aujourd'hui, le rabbin Raïm Korsia que j'ai eu au téléphone regrette, il aurait voulu venir annuler une nouvelle fois, mais il n'a pas pu, mais il serait heureux de poursuivre les échanges sur cette question. Il y travaille de son côté. Bien, la parole est à vous. Oui. Plutôt plus tard. D'accord. Tu interviendras sur ce que vous faites. Alors, il y a plusieurs questions. Oui, monsieur, dans le fond.
Oui. Bonjour. Moi, je voudrais vous remercier d'abord pour cette initiative. Je pense que le frère jésuite est à la hauteur de ce que sont les jésuites depuis des siècles, c'est-à-dire les éthiques. Moi, je voudrais deux questions à poser. Une concernant la finance islamique, je pense qu'il y a un problème de communication, pas bien communiqué sur la finance islamique. La seconde question, ça peut être aussi un frère, hein. Du CAC 40 un chapelet dans leur poche, ils sont d'accord, et qu'ils n'arrivent pas à.
Je suis pas sûr.
Voilà, à essayer de répondre favorablement. C'est peut-être le fait que l'Europe a été créée d'abord sur le plan économique, et qu'on aurait dû commencer par le politique. Voilà, c'est une question que je me pose. Je suis peut-être.
Oui, vous présentez monsieur aussi.
Oui, je suis Abel Zoli, je suis journaliste de radio et d'un magazine. Et je souhaite, d'accord, avec votre permission, faire une ou deux émissions en radio et vous réunir tous. Parce que je crois que ça vaut vraiment la peine d'en parler. Donc, juste après, je viendrai vous solliciter pour faire vraiment une émission avec vous, Marc, parce que c'est bien ce que vous faites.
Merci. L'interreligieux peut être un des moyens de communiquer sur la finance islamique, d'ailleurs. Peut-être que ça passera. mieux comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on prend une série de questions, si on commence à répondre tout de suite.
Le...
Voilà, monsieur, puis monsieur après.
Plus fort.
Vous pouvez vous présenter également ? Très bien.
Simplement dire à monsieur, pardonnez-moi de faire un échange, c'est que ça se fait. C'est important de faire savoir que ça se sache, que ça se fasse. D'accord ? Quelle est l'utilité que ça se fasse, que ça se sache pas. C'est ça la communication. Vous êtes un financier, je suis un homme de communication, donc c'est ça que je vous remercie.
Donc on ne se comprend pas.
Il y avait monsieur qui est Salomon.
Bonsoir, j'avais une question pour monsieur, je suis étudiant en école de commerce. Vous avez cité tout à l'heure en fait un passage où vous avez cité, vous avez utilisé, il y avait le mot de frère utilisé. Est-ce que ça veut dire que c'est le même mot de la membre de la communauté? Est-ce qu'il s'agissait en fait de... Parce que j'avais en tête en fait que ce n'était pas du tout permis que justement les juifs entre eux se prêtaient à un verre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez
avec l'étranger
et puis il y a Salomon, et puis on va.
Salomon Israël. Donc moi en fait j'ai une question très similaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi je constate en fait une très grande proximité entre les principes qui sont à la fois dans la Bible et dans le Coran, et qui guident donc les deux éthiques, de l'argent et de la finance, et du frais intérêt. Mais j'ai la même question, c'est-à-dire je crois que chez les musulmans, celles des musulmans sont tenus à faire de la finance islamique, ça s'impose pas aux non-musulmans, et apparemment vous dites qu'entre juifs c'est pareil, c'est entre juifs pour les États-Unis, c'est ça. Et donc, est-ce que c'est vrai? Premièrement, je crois que c'est une confirmation. Et deuxièmement, l'éthique elle-même ne joue pas entre frères. Ce qui joue entre frères, c'est peut-être le fait de respecter des règles un peu strictes qui sont énoncées dans les textes. Les règles éthiques sont universelles. Mais l'autre question que j'avais, j'ai l'impression qu'il y a une finance islamique. Est-ce qu'il y a dans le concret aujourd'hui une finance juive ou les germes d'une finance juive?
Ok. Oui. Alors, par rapport à l'islam, donc deux questions. La question de la communication. La Grèce, oui. Voilà. Vas-y, Tariq.
Si vous permettez, donc effectivement, je commence par la fin. En fait, pour ce qui est de la vision, du comportement d'islam avec l'argent, cela n'est pas effectivement exclusivement entre musulmans, mais entre musulmans et non-musulmans, et entre musulmans et musulmans. La preuve, c'est, dans le Coran, on a très exactement 8 versets coraniques qui parlent du Liban, verset 275 jusqu'au verset 280 de la Sourate 2. Ensuite, dans la Sourate 3, verset 130 et verset et après, dans la Sourate 30, verset 39. Si on lit, par exemple, dans la Sourate 2, le verset 245, quiconque, prête à Dieu de bonne grâce, je traduis, vous savez tous que le Coran est en arabe, traduire c'est un peu trahi, donc c'est pas parfait, mais c'est quand même un effort. Le verset 245, quiconque, donc le mot quiconque veut dire que c'est pas seulement entre musulmans, c'est entre musulmans et non musulmans, et entre musulmans, et d'ailleurs le prophète de l'islam, a eu des comportements commerciaux avec des juifs, il est mort en ayant son bouclier gagé, c'est un juif. Donc, comportements en transaction entre musulmans et non-musulmans, ou entre musulmans entre eux, sont gérés par le même code éthique. Donc, quiconque prête à Dieu de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Dieu restreint ou étend ses faveurs et c'est lui qui, vers qui vous retournerez. Ensuite, si votre débiteur, et là encore le débiteur, c'est pas le débiteur musulman ou le débiteur non musulman. Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se libérer de sa dette, jusqu'à retour à meilleure fortune. Si vous pouviez savoir pourtant quel mérite vous auriez, en lui consentant une remise gracieuse totale ou partielle. Ensuite, Dieu réduira à néant les profits usuraires et fera fructifier le mérite des aumônes. Et quand le Coran parle justement de ce qu'on appelle le riba, c'est-à-dire le taux d'intérêt, il ne distingue pas non plus distinction de race ou de religion. C'est-à-dire, le verset est très clair. Ceux qui pratiquent l'intérêt ne se lèvent qu'à la manière de celui qui est frappé de folie et rossé à tort et à travers par le diable, etc. Et ce, parce qu'ils ont dit que le commerce n'était rien d'autre qu'une forme d'intérêt, de riba. Or, Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt. Voilà, donc il y a une séparation qui est nette entre l'intérêt, c'est-à-dire qui correspond, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon schématique, aux facturations du délai de crédit. Donc ça, c'est facturation d'un délai et non pas d'un effort, et etc., etc. Il va même jusqu'à une guerre, déclarer une guerre de la part de Dieu et son messager contre vous, si vous pratiquez le riba. Si vous revenez au droit chemin, vous avez droit à vos capitaux, donc ce qui est dette, vous ne commettez pas d'injustice et vous n'en subissez point. Donc ça, c'est le premier point pour vous dire qu'effectivement, la finance islamique n'est pas réservée qu'aux musulmans. C'est un code éthique qui ne s'impose pas, mais qui est proposé. Voilà, qui est proposé, c'est très important. Deuxième chose très importante, c'est, tout à l'heure vous avez parlé des agences de notation, moi j'avais fait dans mon livre un parallèle entre les agences de notation extra-financière et ce qu'on appelle les shara'abord, c'est-à-dire les garants de cette conformité à la finance islamique, c'est-à-dire ce régulateur, ce contrôleur, très important, parce que pour assurer la fiabilité et la viabilité d'un système, il faut des contrôleurs objectifs, donc une objectivité, une transparence. La remarque, c'est que même ces agences de notation extra-financière et non pas financière, qui se basent sur des filtres qui sont très très proches de la finance islamique, souffrent de problèmes de communication. Et le problème de communication qu'on a aujourd'hui pour les finances alternatives, il n'est pas lié simplement au fait que nous ne pouvons pas communiquer, mais comme mes collègues ont dit, c'est qu'on ne nous offre pas l'opportunité de communiquer. C'est un sujet tabou. On ne laisse pas parler de tout ce qui est alternatif. Pourquoi ? Parce que les lobbies aujourd'hui, les grandes banques, ne veulent pas entendre parler, comme dans l'énergie, hein. C'est le même problème. Quand vous avez Total, qui on a trouvé dans Vigeo, ce qui est une agence de notation extra-financière, une capitale, enfin des participations, alors que, et que effectivement elle fait partie d'une certaine catégorie bien notée dans Vigeo, eh bien, il y a eu tout un scandale en 2005 qui a dénoncé justement cette prise de participation qui a fait la subjectivité de la note extra-financière de Total, par exemple. Donc on a toujours ce lobby qui empêche la communication d'une part, qui la rend tabou et qui rend les gens allergiques par rapport à ces sujets-là, considérés malheureusement comme religieux alors qu'ils ne le sont pas. Considérés comme ayant des frottements avec la laïcité alors qu'ils ne l'ont pas. C'est tout le contraire, c'est-à-dire la finance islamique, on l'a appelée islamique, mais on peut simplement la limiter à des techniques. Et en parler publiquement, c'est pas par manque de choses à dire, mais c'est simplement par manque de tribune où on peut justement expliquer et en parler. Et j'invite effectivement nos amis journalistes à oser inviter des experts en finance islamique et en finance chrétienne et en finance juive, et de confronter les différentes visions dans des chaînes publiques, chose que je ne pense pas qu'elle puisse être faite, en tout cas dans l'actualité d'aujourd'hui. Voilà.
D'ailleurs, une petite parenthèse sur les journalistes qu'on a invités assez largement pour ce soir, Le Monde, Le Figaro, Libération, etc. Donc on a eu La Croix qui est venue, je crois qu'il y a aussi La Vie qui était là, Monsieur qui est également là. Bon, donc c'est quand même plutôt les médias confessionnels qui se sont intéressés. Bon, bah,
Sur le judaïsme, il y avait deux questions. Est-ce que les préceptes s'appliquent uniquement pour les relations entre juifs? Est-ce qu'il y a une émergence?
C'est pas aussi simple que ça. Je voulais juste, à la suite de ce qui a été dit sur une vision pessimiste, c'est que moi, ce qui me rend encore plus pessimiste, c'est de voir les réactions de foule. Et ce qui me fait dire ça, c'est que, habitant à quelques centaines de mètres de l'endroit où Ségolène Royal avait fait son grand rassemblement entre les deux tours, j'y suis allé et j'étais bon enfant, il suffisait qu'elle ouvre la bouche, elle aurait dit le ciel est bleu, tout le monde applaudissait. Et donc, il n'y avait pas de motif. Et puis, j'ai vu à la télévision le rassemblement de Villepinte. Et le sentiment que m'ont donné ces deux choses, l'un avec les socialistes en 2007, l'autre avec Sarkozy, je me suis dit, on n'est pas si loin du rassemblement de Nuremberg et il suffirait d'une crise économique grave pour qu'on passe d'un rassemblement bon enfant de Ségolène Royal et de Sarkozy à quelque chose de plus grand. Je viens à la question posée. Elle est relativement, si on lit le texte, j'allais dire, brut de décoffrage, et si on prend certains versets indépendamment des uns des autres, on a effectivement une réponse gênante, et en particulier, si on prend ce que je citais au chapitre 23 du Deutéronome, « N'existe point d'intérêt de ton frère, ni intérêt pour argent, ni intérêt pour donner, ou pour toute chose susceptible d'accroissement. À l'étranger, tu peux prêter un intérêt, tu ne le dois pas à l'égard de ton frère. » Quand on le lit comme ça, c'est effectivement difficile à avaler. Ça paraît totalement discriminatoire. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que l'étranger qui est visé là, et je dirais pourquoi, je pense que pourquoi l'étranger qui est visé là, c'est pas n'importe quel étranger, c'est en particulier le Cananéen. Le Cananéen qui était le symbole de l'idolâtrie, le symbole des sacrifices humains, etc. Et que donc, alors qu'il y a le texte, justement, j'y faisais allusion, mais je ne l'ai pas lu. C'est avec exactement les mêmes mots que pour l'amour du prochain. On trouve toujours au chapitre 19 de Lévitique. Si un étranger vient séjourner avec toi dans votre pays, ne le molestez point. Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous. Et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, le texte nous dit que l'étranger est comme un compatriote. Alors, il y a une interprétation restrictive de certains juifs qui disent c'est l'étranger, c'est le prosélyte, c'est l'étranger converti. Mais les mots « car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte » montrent bien que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le texte.
Il y a la correspondance entre « guerre » et « Mégouillard ».
Oui. Dans cette affaire-là, effectivement, la tradition juive dit qu'un étranger, donc un non-juif qui vit avec les juifs, est considéré comme un compatriote, pour autant qu'il respecte ce qu'on appelle les sept lois noahiques, qui sont considérées par la tradition juive comme s'imposant à l'ensemble de l'humanité, dans lequel il y a l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'inceste, je ne les ai pas, si j'avais mon ordinateur avec moi, je les aurais retrouvés. Et donc, en fait, le texte du Lévitique signifie au fond que l'étranger qui vit parmi nous, il doit être considéré comme un compatriote. C'est totalement d'actualité aujourd'hui. Et sans qu'il ait besoin de se faire naturaliser, pour reprendre le discours d'aujourd'hui, puisqu'on ne lui demande pas de devenir juif, on lui demande simplement d'avoir un comportement correct. Et à ce moment-là, on le traite de la même manière, donc il n'est peut-être pas un frère, mais il est assimilé au frère. Et l'étranger avec lequel on peut, j'allais dire, être méchant, ou ne pas avoir le même comportement éthique, c'est justement... C'est le symbole de l'étranger ennemi, et en particulier ennemi pour des raisons éthiques, pas uniquement parce que c'est un ennemi avec lequel on fait la guerre. Moi, c'est comme ça que je lis ces textes. Il faudrait retrouver peut-être d'autres sources. Et j'ajoute, puisque je parle de l'étranger, que l'ordre des versets n'est jamais indifférent. Et les versets que je viens de vous lire, il y en a que j'avais prévu de lire tout à l'heure que je n'ai pas lu, ce qui suit immédiatement le commandement d'aimer l'étranger, de ne pas le brimer et de le traiter exactement comme comme les compatriotes. Les versets qui suivent, c'est « Ne commettez pas d'inéquité en fin de jugement de poids et de mesure, ayez des balances exactes, des poids exacts, une épha exacte, un in exact. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Ça, c'est la, okay. Bon. Et donc, justement, le fait que ça soit accolé à la règle vis-à-vis de l'étranger qui doit être traité comme un compatriote, montre bien l'importance du lien.
Merci. Il y avait une question là qui s'adressait plutôt aux braves enfants chrétiens, les dirigeants du CAC 40 qui auraient un chapelet dans leur poche. C'est vrai que bon,
il y en a ou deux au moins qui ont une étoile de David.
Il y a une question sur la Grèce aussi. Un mot sur la Grèce.
La Grèce est un tout petit pays dont les ressources sont le tourisme et le commerce maritime. La Grèce est un État qui n'a jamais développé d'administration fiscale, comme nous en avons une grâce à, disons, la Révolution française et Napoléon. Hein, la vraie administration fiscale en France. Comment ? Oui, mais en fait, le roi, jusqu'à la Révolution française, a énormément de mal à lever l'impôt. Il n'y arrive pas, en réalité.
Il y a des fermiers généraux.
Oui, mais il a du mal. Voilà. Donc, en fait... Comment ? Oui, alors, j'y arrive. Donc, mais c'est fondamental. Je pense que c'est important de comprendre ça. La Grèce, c'est un État qui n'a jamais construit, en fait, qui n'a jamais eu Napoléon, qui n'a jamais construit d'administration fiscale, et qui a très peu de ressources. Il n'y a pas d'industrie en particulier. Lorsque la Grèce rentre dans la zone euro en 2001, elle a falsifié ses comptes publics avec l'aide d'une grande banque new-yorkaise qui s'appelle Goldman Sachs. Pour donner l'illusion qu'elle vérifiait les critères de Maastricht. À l'époque, Eurostat, qui est l'équivalent européen de l'INSEE, a protesté en disant « Mais c'est faux, les comptes sont faux, les critères de Maastricht ne sont pas vérifiés. » Donc en fait, au niveau européen, on n'était pas dupes en réalité. Et la Commission européenne a fermé les yeux. Et la Grèce est même le seul pays dont la France ait soutenu l'entrée dans la zone euro. Pour tous les autres pays, elle s'est abstenue prudemment en disant « Je ne sais pas, je suis agnostique ». Mais pour la Grèce, alors là, on a dit « Oui, oui, c'est très important que la Grèce rentre dans la zone euro ». C'est une question qu'il faudrait poser aux politiques qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Mais bien sûr, mon avis, si vous voulez... Non, c'est pas culturel.
C'était en quelle année ?
2001.
Excusez-moi,
quel était l'intérêt de Goldman Sachs de couvrir une...
Alors, quel était l'intérêt de Goldman Sachs ? Goldman Sachs s'est fait payer très très cher la commission, et ça a donné une information à Goldman Sachs, que Goldman Sachs était la seule à avoir pendant tout un temps, qui était l'étendue du mensonge des comptes publics grecs. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent ce dossier d'à peu près, en 2003... Il y a eu un cadre dirigeant de Goldman Sachs sur les affaires européennes qui a fait une petite déclaration dans la presse en disant « Moi, j'ai quelques doutes sur le sérieux des comptes publics grecs. » Oui. Et ensuite, vous avez toute la question immense que vous connaissez certainement des CDS, on appelle les CDS, qui sont des actifs qui donnent une protection sur l'éventuel risque de faillite, de défaut d'un État. Hein, c'est une assurance. Si vous savez que la maison du voisin est très proche de brûler et que vous avez le droit d'acheter une assurance sur le voisin, c'est intéressant d'avoir l'assurance et d'avoir l'information. Si vous êtes vous-même celui qui peut allumer le gaz chez le voisin et ensuite acheter l'assurance, ça devient très tentant de le faire. Vous voyez ? Je ne sais pas. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, il se trouve qu'en fait, Mario Draghi, donc l'actuel directeur de la BCE, est un ancien de Goldman Sachs, que Mario Monti a travaillé pour Goldman Sachs. Et donc, ça fait beaucoup d'anciens lieutenants de Goldman Sachs qui sont en train de prendre le pouvoir en Europe, sachant que, de fait, voilà, Goldman, bien que Goldman s'en défende, hein, donc là, j'ai déjà reçu un mail d'avertissement d'un cadre dirigeant de... Comment ?
Alors, c'est notre question.
Donc, Goldman, la version officielle de Goldman, c'est que Goldman n'a pas aidé la Grèce à falsifier ses comptes. Pourquoi ? Parce que la Grèce n'a pas falsifié ses comptes. Puisque Eurostat en était conscient, donc il n'y a pas eu falsification. C'est ça la position officielle de Goldman, telle que je la comprends. Après, donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la Commission européenne a fermé les yeux ? Et pourquoi ensuite on a continué de prêter à la Grèce ? Donc c'est une question qu'il faut adresser à la Commission européenne et puis aux investisseurs privés qui ont prêté à la Grèce. Je veux dire, vu le niveau d'information dont disposent aujourd'hui les hedge funds et les banquiers quand ils prêtent à un pays, ils savaient très bien que la Grèce était incapable de rembourser. Ils n'ont pas découvert ça aujourd'hui. Vous voyez ? Alors, non, je n'ai pas dit ça. J'ai pas parlé d'un complot. Mais j'essaie de dire pourquoi la Grèce en est là aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait rentrer la Grèce dans la zone euro ? Mon interprétation, c'est que c'était intéressant pour les industries européennes qui produisent d'avoir des marchés qui se convertissent à l'euro pour pouvoir inonder ces marchés de nos produits. Les Allemands, c'est quand même ça leur stratégie de fond. Mais Goldman Sachs n'était pas intéressé. Goldman Sachs s'est fait payer pour falsifier les comptes, s'est fait très très grassement payer, et en plus a disposé d'une info sur la Grèce que personne n'avait à ce moment-là, probablement a pris des positions sur la Grèce qui l'avantageront beaucoup si jamais la Grèce connaît un grand défaut. Mais là, je n'ai pas d'informations factuelles, parce que c'est très difficile d'avoir des infos là-dessus, et je ne travaille pas pour Goldman Sachs. Voilà. Vous voyez, et donc là, juste je termine là-dessus. La question qu'il faut se poser, c'est aussi pourquoi les investisseurs ont continué de prêter à la Grèce. Alors, c'est vrai que l'État grec a fait à peu près n'importe quoi de l'argent qui lui a été prêté. C'est pas pour dédouaner complètement les autorités grecques de leur responsabilité. En particulier, une bonne partie de cet argent a été investi pour remilitariser Chypre à cause de cette querelle incroyable entre la Grèce et la Turquie. Ça ne mérite absolument pas l'argent qui a été investi là-dedans, c'est sûr. Donc il y a eu des erreurs monumentales commises par l'État grec, c'est certain. Il y a une difficulté réelle de l'État grec à lever l'impôt, c'est clair. Mais moi, je retourne la question. La responsabilité, à mon avis, elle est partagée. Nous sommes complices de la situation actuelle de la Grèce. Moi, c'est mon point de vue.
Attends, il y a trois questions. Il y a trois questions. Bertrand, tu as un complément ?
Oui, non, moi j'avais juste une réaction, en fait, je profite de ce que j'ai le micro, pour une réaction, plutôt un complément, pour donner une vision peut-être un peu moins pessimiste à ce qu'a dit Gaël, même si, encore une fois, nous, notre manifeste, il est motivé par cette inquiétude, pour ne pas dire cette inquiétude devant la situation, le tragique de la situation. En France, on a connu un épisode qu'on oublie complètement, qui est très récent, qui date de 97-98, dans lequel on avait des gens extrêmement chevronnés, des techniciens de très haut vol, disant la France a des finances publiques qui sont absolument désastreuses. Et à l'époque, la question était, et elle ne pourra pas se qualifier pour l'euro. Souvenez-vous d'ailleurs, ça avait conduit un secrétaire général de l'Élysée à proposer la dissolution du Parlement, et finalement ça a permis au gouvernement de Lionel Jospin d'arriver au pouvoir. Et un an après, snap, nous sommes qualifiés haut la main. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi, je connais bien la situation, puisque j'étais au cabinet à l'époque de Sauter et de Strauss-Kahn. Bien, tout simplement, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement socialiste de l'époque ? Il a supprimé les économies d'impôts qui avaient été accordées par le gouvernement précédent. Et effectivement, le gouvernement précédent était coincé, parce que dans la logique politique de l'honneur, en quelque sorte, il ne pouvait pas revenir sur ses propres promesses. Le gouvernement suivant a tout simplement passé un petit coup de Tipex et de gomme sur les économies qui avaient été faites, et sans maquiller les comptes, sans trop les maquiller, on est passé haut la main. Et ce qui est absolument effarant dans la période actuelle, c'est que notamment les agences de notation considèrent qu'un gouvernement ne va jamais changer d'avis. Alors, ils n'ont peut-être pas tout à fait tort vis-à-vis, par exemple, de l'espèce de bravado des politiques français qui jamais ne reviendront sur ce qu'ils ont promis quelques mois avant. Mais en même temps, la démarche de... Je trouve que la démarche des agences de notation et des marchés financiers est d'un... même pas d'un cynisme et d'une anthropologie, mais complètement tragique. L'homme ne peut pas changer. Ben si, l'homme, il peut changer, il peut s'adapter, etc. Et ça, je trouve, je tenais...
Ça, c'est un point clé, semble-t-il. L'homme ne peut pas changer.
Oui, on se permet un tout petit peu d'interactivité, mais elle soit très rapide.
Ce dogme de l'homo economicus qui s'impose du bar me paraît extrêmement grave. Et effectivement, il faut oser y faire front, si j'ose dire, par de multiples fois.
Tu peux te présenter d'ailleurs brièvement, Vincent ?
Vincent Pilet, je travaille dans l'industrie, donc j'ai 50 ans, j'ai grandi avec ce dogme. Et toutes les catastrophes actuelles étaient inéluctables ou bien imprévisibles. Je ne sais pas comment le dire, mais il est temps de remettre en cause certains dogmes.
Il y a dit qu'il faut vous dire. Tu es de philosophie bouddhiste, par ailleurs. Attendez, il y a un certain nombre de personnes qui ont demandé la parole. Et puis, il y a des questions auxquelles on n'a pas tout à fait répondu. Notamment, la question... Les responsables du CAC 40, effectivement, sont des chapelets. Bon, pour certains d'entre eux. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même... je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire. Il y a un Occident qui est d'origine. Je ne sais pas s'il est chrétien aujourd'hui encore, mais en tout cas, il est d'origine chrétienne. Et c'est quand même par lui que les sortes de problèmes arrivent.
C'est vrai qu'il y a un certain nombre de dirigeants en France qui sont chrétiens, chrétos, protestants, les deux, chrétiens. Et du coup, j'ai une position un peu privilégiée pour rencontrer un certain nombre. Et je vois de tout, honnêtement, c'est-à-dire des hommes qui sont vraiment préoccupés par ce qui se passe et qui, honnêtement, je crois, c'est pas pour les dédouaner, hein, font de leur mieux. Mais, je veux dire, une boîte du CAC 40, c'est un paquebot énorme, hein. Et le PDG de la boîte, ou même le cadre dirigeant qui est juste en dessous, il ne peut pas du tout aller tout seul changer de gouvernail, c'est compliqué. Après, ça c'est un extrême, et c'est les meilleurs. Et puis l'autre extrême, c'est des cyniques absolus, qui vont à la messe le dimanche, mais du lundi au vendredi, c'est des requins absolus. Voilà.
Ceux qui ne diront pas du tout, d'ailleurs, naturellement.
Ah ben après, évidemment, non mais là je ne parle que des chrétiens. Hein. Je ne parle que des chrétiens. Hein. Voilà.
Mais c'est humain, c'est
humain. Alors justement, la question de la finance juive.
Moi, je crois que cette question, elle dépasse la question de la finance. Moi, j'ai travaillé avec un collègue. Il faisait des vacheries vis-à-vis des collègues ou d'autres à longueur de journée. Mais quand on allait ensemble à une messe d'enterrement, il allait communier. Je sais ce que représente la communion pour les chrétiens, et j'ai toujours été profondément choqué de le voir aller communier, parce que ça me paraissait complètement opposé. Dans le judaïsme, il suffit de voir le film, je ne sais pas si certains d'entre vous, qui n'est pas un grand chef-d'œuvre du cinéma, mais qui est une caricature, c'est Le Grand Pardon, ou un type qui est extraordinaire, en plus très bien vu dans sa communauté, et qui se fait arrêter à la sortie de la synagogue le jour de Kippour. Donc il y a ça partout. Alors sur la finance juive, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de finance juive. Il y a des financiers juifs comme il y a des financiers chrétiens. Il y a des patrons du CAC 40 juifs comme il y a des patrons du CAC 40 chrétiens. Je ne sais d'ailleurs pas dans quelle mesure ils sont engagés dans leur religion ou si c'est simplement des origines. Donc, il n'y a pas de finance juive stricto sensu. Je pense qu'aujourd'hui, la finance juive, s'il y en avait une, elle est noyée dans le reste et elle applique les règles de la finance occidentale, en gros. Alors, qu'il puisse y avoir des gens qui réfléchissent au fait de savoir justement, un peu comme ce qui a été dit ici, qu'il y ait des gens qui réfléchissent de savoir si l'éthique juive est respectée par les financiers juifs ou non, ça pourrait être effectivement utile, mais ça n'a pas fait l'objet, en tout cas à ma connaissance, de points importants. Puis au fond, il faut bien reconnaître que même si la proportion de financiers juifs est supérieure à la proportion de juifs dans la population moyenne, c'est tout de même une toute petite minorité, et justement, ça n'a pas le poids que peut avoir la finance islamique, compte tenu de ce qu'elle représente comme capitaux. Je pense que le juif le plus riche, à côté de l'émir du Qatar, ça ne doit pas être grand.
Non, excusez-moi. Ce que vous dites n'a pas de sens. Très honnêtement. Parce que dans la notion de la finance juive, il y a une notion de solidarité. Quand vous parlez, il n'y a qu'à voir les Saoudiens, les Qataris, les Émirats, voir à côté le pays comme le Yémen, voir à côté le pays comme la Somalie qui crève de faim. Donc, pardonnez-moi d'être un peu plus direct et Marc, vraiment, je m'excuse de cette intervention. Je tenais simplement à vous dire que, par photo, quand vous dites le juif le plus riche ou le musulman, vous savez, le Saoudien n'a rien de musulman. Il faut dire, nous sommes musulmans. Savoir ce que c'est. Le Qatari. Non plus, quand on voit ce qu'on investit dans un club de foot, qu'on achète des hôtels particuliers, qu'à côté, il y a des gens qui crèvent de faim.
Donc c'est donc partagé aux trois communautés.
Tout à fait.
Ok.
Il y a trois mains qui se sont levées.
Mais rendant justice aux protestants qui lui a une éthique par rapport aux catholiques, si j'ose me permettre, sans généraliser.
Difficile de généraliser. Hein.
Ouh là là.
Monsieur qui était là. Ensuite, Stanislas Sordo. Et monsieur qui est là. Mais vous vouliez poser une question. Et puis monsieur aussi là.
Dans le mail que j'ai reçu pour cette soirée, il y avait deux titres en fait. Le titre, l'objet, c'était les religions et les éthiques peuvent-elles sauver la finance mondiale. Dans le corps du texte, c'était un petit peu plus light. Je me demande, je pose la question, comment est-ce qu'on répond à cette question ce soir.
C'est vrai qu'il y avait une approche.
Est-ce qu'on y répond. Monsieur Lévy, je voulais dire, je ne trouvais pas votre réponse très, très pragmatique à propos du frère et de l'étranger. Parce que si on veut être pragmatique, il faut définir un groupe de personnes qui partagent des valeurs identiques. Vous parlez des lois de Noé. Juste dit comme ça, ça ne va pas amener à quelque chose de concret.
Non mais, j'ai jamais dit que c'était... Comment oui. Okay. J'ai pas dit que c'était concret, j'ai dit que c'est, voilà comment on interprète la règle.
Et je pense que, Tariq, vous abordiez un point intéressant de savoir finalement à qui appartient le capital. Et c'est peut-être ce qui différencie les différents points de vue. Gaël, vous abordiez une solution plus globale, si j'ai bien compris, au niveau d'un État. Pas au niveau des personnes directement. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous voyez l'Europe comme.
Ah oui, c'est sûr.
Voilà, donc vous ne pensez pas qu'il y ait une solution personnelle en fait, pour changer la finance mondiale.
D'accord. Monsieur, et puis les deux monsieur là-bas.
J'ai juste une question complémentaire par rapport à la finance islamique, l'intervention de monsieur Benderet. À propos de la banque retail islamique en Europe, j'ai bien pris des notes sur votre intervention. Donc là, vous présentiez la finance islamique comme étant conjoncturellement une solution, parce qu'en gros, la France ou l'Europe, les capitaux sont dans les pays du Golfe, ce serait une solution pour financer l'économie française. Mais d'un autre côté, avec une forte population musulmane en France et en Europe, je pense qu'il y a aussi des vrais besoins, un vrai marché et un vrai potentiel pour développer une banque, en tout cas des solutions bancaires à une population, d'ailleurs, enfin, pas forcément tout musulman, mais aussi il y a des gens qui ont envie de solutions. Je suis assez étonné par votre intervention en disant qu'une banque retail ne serait pas, enfin, c'est pas possible de développer une banque retail en Europe. Alors j'imagine qu'il y a forcément les lobbies des banques actuelles, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un vrai besoin et donc une vraie opportunité.
Je vous raconte. Stanislas Sordo, sur la notion de 4P notamment.
Oui, je voulais un peu rebondir sur tous les échanges qui ont lieu en ce moment sur. Une finance qui pourrait avoir un caractère un peu corporatiste, à savoir islamique, juive ou autre. Moi, je voudrais vraiment trancher par rapport à ça et rebondir sur ce que disait Bertrand tout à l'heure. Il faut rechercher des solutions à caractère expérimental. On est dans la situation où il faut trouver des solutions. Je peux affirmer, même si ça a toujours un caractère utopique, c'est que ce que moi j'appelle le 4P, hein, le principe du partage des profits et pertes, c'est une technique. C'est d'abord une technique. C'est une technique que j'ai étudiée, que j'ai approfondie. C'est une technique complexe. C'est une technique qui est attachée à la notion de dette. C'est notre première préoccupation au jour d'aujourd'hui. Cette technique a des incidences, comme disait Bertrand, juridiques, comptables. Elle a des incidences sur le modèle d'intermédiation financière. Elle a des incidences aussi sur la façon de gérer la masse monétaire. Là, je ne rejoins pas tout à fait l'interprétation comme quoi aujourd'hui, il y a dans le système dans lequel on est aujourd'hui, si les banques devaient créer, enfin donner du crédit, ça ne générerait pas de l'inflation parce qu'aujourd'hui, ça passe par les marchés financiers et ce n'est pas comme autrefois où les banques qui créent effectivement de la monnaie la réescomptaient effectivement auprès des banques centrales directement, ce qui n'est pas le mécanisme au jour d'aujourd'hui. Mais ça, c'est une parenthèse. Il en est toujours est-il qu'effectivement, le 4P a une incidence en termes de gestion de la masse monétaire. Donc, j'insiste sur cet aspect expérimental, cet aspect concret, parce que finalement, c'est un petit peu aussi l'enjeu de nous qui avons une foi qui consiste effectivement à essayer de penser et d'imaginer qu'il y a peut-être un modèle sur lequel on peut tous converger et un modèle qui peut avoir des applications concrètes dans la réalité. Je pose juste la question, la Grèce. Imaginez ce que ça aurait pu être pour la Grèce si on avait pensé, et c'est pas pour plaider pour ma paroisse, mais si on avait pensé à autre chose et éventuellement au 4P. C'est-à-dire plutôt que faire de régénérer de la dette à des taux d'intérêt absolument faramineux et d'obliger les banques à faire des abandons de créances et du coup ne plus pouvoir prêter au tiers, parce qu'aujourd'hui les banques, elles sont aujourd'hui au tapis, si j'ose dire, et donc elles peuvent même plus vraiment prêter, disons, dans des conditions normales à leurs propres économies. Elles mettent même le personnel à pied. Moi, j'en subis même les conséquences, puisque je suis dans un groupe qui est engagé sur la Grèce, et aujourd'hui, c'est réduction de salaire, c'est réduction des avantages, c'est réduction qui dit ceci, au-delà de mes propres impacts personnels, réduction de postes aussi, c'est réduction du pouvoir d'achat, donc de la circulation monétaire qui circule moins, et donc une économie qui s'atrophie. Donc, imaginons si on avait appliqué le 4P, dont l'un des principes, c'est avoir un mécanisme de remise de dette inhérent, de pouvoir éventuellement imputer des pertes sur des échéances de remboursement, puisqu'en fait, le principe en fait, du 4P, c'est qu'on a une dette, et cette dette, il y a une obligation de remboursement, mais elle est rémunérée par un système de partage d'un résultat. Ce résultat, un partage qui se négocie, qui se calcule, ou qui s'anticipe à l'avance. Donc ce mécanisme-là aurait permis éventuellement, si la dette de la Grèce était effectivement perdue, au moins d'étaler dans le temps cette perte, et finalement la dette de la Grèce aurait été éteinte. Aujourd'hui, on n'a ni extinction de la dette, et on a génération d'intérêts à l'infini, dont on ne sait pas du tout comment la Grèce va effectivement se sortir. Et la population, comme disait Gaël, souffre, alors que au moins dans un autre mécanisme, ben, au moins, on aurait pu éventuellement alléger effectivement les populations. Je vais vous proposer de lire une citation de Charles Péguy. Mais avant de la lire, je voudrais dire que c'est important la problématique de l'amitié qui a été évoquée par tous, hein, quelle que soit la confession. Parce que effectivement, le 4P, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il est fondé sur la confiance. Puisqu'en fait, il ne peut fonctionner que si, effectivement, on partage un profit et que ce profit puisse être identifiable et que tout le monde agisse dans le sens de générer, effectivement, ce profit, de ne pas le détourner. Et donc, ça ne peut fonctionner, comme on dit en théorie économique, qu'entre débiteurs et créditeurs dits honnêtes. On en a parlé l'autre jour quand on était à table avec Bertrand. Mais ça, je vous soumets ça un peu à titre de conclusion, et puis je vous lirai la citation de Charles Péguy. C'est que, en fait, la problématique du 4P, c'est effectivement être entre débiteurs honnêtes, enfin créditeurs et débiteurs honnêtes. Si on ne l'est pas, ça ne devient pas applicable. Et si c'est pas applicable, comment se protège le créancier ? Bah, effectivement, en demandant une rémunération fixe, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Autrement dit, le taux d'intérêt, ce à quoi je vais aboutir, est une sanction. C'est une sanction contre le péché de l'homme qui n'est pas honnête et qui n'a pas de relation vraie et franche l'un vis-à-vis de l'autre. Donc je vous mets ça un peu en balance parce que ça va un peu choquer les esprits, mais effectivement. Alors du coup, je vais conclure avec cette citation de Péguy qui a été à l'origine de mes propres travaux et qui est un petit peu complexe à entendre, mais elle fera plaisir, je pense, à toutes les personnes qui sont présentes. Malheureusement, alors, non, j'ai perdu ma page, je suis un peu désolé. Elle est là. Ce ne sont pas quelques livres de débauche qui sont dans le monde moderne, ce point secret de résistance que sont dans le monde chrétien les évangiles. Ce ne sont pas quelques livres de débauche qui sont l'antipode des évangiles, le point secret diamétral contraire du point secret des évangiles, ce qui est le point secret de résistance du monde moderne, ce qui est dans le monde l'antipode des évangiles, le point diamétral contraire de ce point secret que sont les évangiles dans le monde chrétien, ce qui est dans le monde moderne, ce que les évangiles sont dans le monde chrétien, ce ne sont pas quelques livres de débauche, aucun n'en aurait la force, c'est le livret de caisse d'épargne. Et pourquoi le livret de caisse d'épargne? Finalement, c'est la rémunération garantie. Et là, une rémunération garantie, c'est l'absence de confiance. C'est-à-dire qu'on prédétermine la rémunération et on ne fait pas confiance à la fois dans l'avenir et à la fois dans les autres. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse.
Donc 4P, principe de partage
des profits. Et on est. Voilà. Et c'est le fondement. Et là, je pense que pour les hommes politiques de demain, je pense qu'il y a vraiment une notion demain à développer, c'est la notion de partage. Mais au sens vrai du terme, pas au sens de redistribution du terme. Mais la notion de partage doit être découverte.
Juste une phrase sur cette. Oui. Je ferai une citation. D'abord, tout à l'heure, la réflexion. La Bible, comme tout texte religieux, elle décrit un monde relativement idéal, et après, il faut l'appliquer et le mettre en œuvre. Mais justement, dans la question de partage, je ferai un rapprochement de deux mots hébreux. Le mot qu'on traduit un peu à tort par charité, parce qu'on ne trouve pas mieux, c'est le mot tzedaka. Le mot tzedaka, c'est le féminin du mot tzedek, qui veut dire justice. Que donc, donner la tzedaka à quelqu'un, c'est plus que lui faire la charité au sens un peu vulgaire du terme, c'est lui donner ce qu'il serait juste qu'il est. Et je crois que cette notion, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mis en pratique, y compris par des gens qui fréquentent assidûment les églises, synagogues ou mosquées. Mais c'est tout de même quelque chose qui montre bien, qui va un peu dans le sens, effectivement, du partage, parce que être juste vis-à-vis de quelqu'un, c'est, entre autres, l'aider quand il faut.
Et je voudrais pour ajouter que la notion que vous avez évoquée, qui est que lorsque on prête, en réalité, il faut aboutir à une association, exactement ça, c'est une notion qui est aussi
dans le texte,
qui est profondément également.
Alors, juste.
Les valeurs sont bonnes, il faut les mettre en œuvre.
On va prendre ensuite les dernières questions.
Excusez-moi, juste pour répondre à votre question qui était très pertinente et vraiment dans le vif du sujet, parce qu'on est là pour donner quand même des réponses pratiques et pragmatiques à cette crise mondiale. D'abord, d'emblée, je veux dire que la crise ou les crises économiques financières ne datent pas de 2007. Elles sont cycliques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la crise de la tulipe. Donc, le monde du capitalisme, il renferme dans sa constitution, le laisser-faire sans barrière, etc., les germes, c'est-à-dire le virus, de cette déchéance et de ce qu'on appelle aujourd'hui les bulles spéculatives. Ces bulles spéculatives sont tout simplement le fruit d'une politique court-termiste, c'est-à-dire l'absence de ce qu'on appelle le long terme, qui est prôné par les religions, hein, que ce soit judaïsme, christianisme ou islam, prendre le long terme, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, c'est-à-dire j'œuvre, c'est-à-dire c'est comme si c'était un jardin à planter pour avoir les récoltes dans l'au-delà, c'est-à-dire un monde, la vie éternelle. Ceux qui croient à cette vie éternelle et à ce jugement dernier œuvrent pour le long terme. Malheureusement, donc, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la gestion, à la tête des banques, etc., il y a des profits court-termistes, c'est-à-dire moi je suis élu pour un an, je fais du rendement 12% parce qu'on m'a imposé 12% cette année, je sais que si je fais 12% cette année-là, je me casse la figure l'année prochaine et la suivante, mais ce ne serait pas moi qui serai à la tête, ça sera un autre, donc
je
m'en fous, moi je prends mon bonus parce que j'ai réalisé mon profit de cette année, après la suite ça ne m'intéresse pas, donc c'est ce comportement très égoïste, très court-termiste qui est le germe de la crise, c'est ces comportements toxiques avec des taux d'intérêt, avec des transferts de dettes, avec de ce qu'on appelle la titrisation, tous ces produits toxiques complexes que personne ne comprend mais qui sont là pour masquer le risque, ce n'est pas BAL3 ni Solvency 2 qui va les résoudre, elle les maquille, on nous maquille les hors-bilans, en nous faisant croire que effectivement tout va bien, qu'on maîtrise le risque. Je suis bien placé pour dire ce que je dis parce que je suis dans les risques. Et maîtriser les risques aujourd'hui, ça ne veut pas dire les masquer et reporter l'échéance. Aujourd'hui, si on veut repenser la finance, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à la morale. Là, effectivement, pour faire très simplement, j'ai commencé mon livre avec un verset très beau
qui est le verset 66 de la sourate 5, qui parle justement de la solution, qui n'est pas, je préviens tout de suite, qui ne va pas être partagé par tout le monde, mais je la cite quand même. Donc le Coran le cite, s'ils observaient la Torah, l'Évangile et les révélations que leur Seigneur leur a envoyées, ils jouiraient certainement des biens du ciel et ceux de la terre. Voilà. C'est un verset qui exprime que ce retour aux fondamentaux, que ce retour à cette éthique qui est commune, finalement, parce que le Dieu, il est unique, hein, c'est celui qui a légiféré, qui a révélé à Moïse, c'est celui qui a révélé à Jésus, c'est lui qui a révélé à Sidna Mohammed. Et donc, cette éthique, elle est commune, elle est universelle, c'est notre patrimoine à tous, à tous les humains. À ceux qui pensent, voilà, à ceux qui partagent avec nous, voilà, c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire ceux qui partagent avec, voilà, ceux qui partagent avec nous, c'est... Voilà, à ceux qui partagent avec nous cette vision du divin ou cette vision d'une éthique, si effectivement on inclut nos amis bouddhistes. Alors juste pour terminer, la dernière chose que je voulais dire, après effectivement je m'arrête là pour cette réponse, c'est que aujourd'hui l'heure est à l'apaisement, l'heure est au travail ensemble, solidaire, c'est-à-dire chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et laïcs, doivent se mettre autour d'une table, oublier les querelles du passé et œuvrer pour une finance équitable, participative et solidaire, au-delà même de nos racines, au-delà même de nos religions, au-delà même de nos communautés, au-delà même de la politique. C'est-à-dire, laissons la politique et les politiciens de côté et œuvrons de façon intellectuelle, scientifique et intelligente pour arriver à des solutions pérennes pour sauver les générations futures. Ça, c'est pour répondre à cette... Excusez-moi, juste pour terminer l'idée.
Reste avec conclure, on prend les dernières interventions.
Et pour vous répondre, pour les banques de retail, en fait, on a nous-mêmes rencontré plusieurs grandes banques françaises. Ils redoutent tous ce que j'ai appelé tout à l'heure l'effet Bred. Il y a eu des rapprochements possibles avec certaines grandes banques islamiques. La banque retail n'est pas pour aujourd'hui, pour des raisons à la fois politiques, conjoncturelles, et pour des raisons... technique aussi, parce qu'à chaque fois qu'on parle avec des grandes banques, ils nous disent, écoutez, nous, on a déjà nos banques retail à Bahreïn, on a déjà nos fenêtres islamiques, qui s'appellent les Islamic Windows, et on sait qu'il y a beaucoup de musulmans ici en France, mais aujourd'hui, on ne veut pas ouvrir cette porte qui peut-être va nuire à notre image. Il y a aujourd'hui des initiatives privées, comme l'initiative de Shabi Bank. Shabi Bank, elle a fait effectivement, elle a commencé une belle initiative qui est le compte courant Qard Hassan, qui commence difficilement, mais voilà, la Mourabaha. Nous avons commencé avec certains de nos partenaires, ce qu'on appelle l'assurance Tchakaful. On va encore une fois vers ce qui est possible juridiquement en France et dans le droit positif. On ne peut pas évidemment contredire hein, les décisions politiques, mais on œuvre dans ce qui est possible. Dans tous les cas, la question de la finance islamique est une question très politisée et malheureusement très instrumentalisée à chaque fois et très mal comprise parce que les acteurs n'ont pas fait encore la distinction, le discernement entre ce qui est politique et ce qui est religieux. Et pour rejoindre ce que vous avez dit sur la religion et les hommes, comme disent nos frères chrétiens, l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce que c'est l'Arabie Saoudite que fatalement... Ils respectent la charia. S'ils respectaient la charia, vous n'auriez pas vu des pays pauvres parce qu'il y a un pilier fondamental dans l'islam qui s'appelle la zakat, l'aumône purificatrice légale. Et il y a même des économistes qui ont calculé les 2,5% annuels que doit verser le riche musulman à son prochain pauvre. Si les Saoudiens, par exemple, avaient respecté que ce principe-là, il n'y aurait pas du tout d'immigration clandestine. Voilà.
Alors, Edgar, et puis ensuite les autres personnes.
Les trois concepts qui réunissent oui, Patrice, finalement les trois religions qu'on vient d'aborder, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Le christianisme, c'est quand même très différent quand on parle de christianisme entre les catholiques et les protestants. Il y a des approches aussi très différentes. Par rapport à ça, moi, ma question, c'est la société occidentale qui a imposé ce type de finance mondiale. Aujourd'hui, elle est toute d'obédience d'une de ces trois religions. La finance occidentale.
Mais délaturée.
On a évidemment des financiers, des financeurs, des intervenants, des politiques qui sont aussi bien musulmans, chrétiens que juifs à la tête des finances mondiales. On sait que même s'il y a une laïcité qui est prônée en permanence dans ce monde-là, les influences et la culture religieuse qui est derrière tout ça
elle est très forte. Et pourtant, il y a trois termes qui ont été totalement annulés de la finance mondiale aujourd'hui, qui sont le tronc commun des trois religions, qui sont le partage, la tolérance et la confiance, qui ont été totalement annulés par ces trois représentants des trois religions, qui est le socle et le fondement même de cette approche humaine dans la relation à la finance.
Bon, ouais, ça va mettre les mots de conclusion de nos différents intervenants. On prend les autres.
Moi, je vois comme l'importance en fait de la question du frère, en fait, de la solidarité. Je crois que c'est quelque chose sur lequel on est tous d'accord sur le fait que l'argent, s'il appartient à Dieu ou à l'État, je ne sais pas, mais en tout cas, il appartient à tous quelque part. Et il fonde. Il y a un des fondations juridiques de notre vivre ensemble. Et donc la question du partage se pose. Le problème, c'est que quand on fait un prêt avec partage, on le vit, moi, dans une banque tout le temps, on est très tenté de faire de la gestion à la place de celui qui doit être gestionnaire et non pas banquier, et c'est interdit par la loi. Et donc c'est la difficulté de faire de la morale et de l'économie en même temps, et c'est un conflit qui avait été sorti justement par l'argent, de manière assez apaisante, pour sortir des guerres de religion. Donc y renoncer, ça peut poser un problème. Ensuite, sur les régulations, moi ce qui m'étonne beaucoup, c'est que la régulation, moi, elle a un écho pour moi, en tant que théologien, par rapport à la morale du Moyen-Âge, la morale un petit peu des catalogues de règles, et on sait bien qu'il y a un risque de ritualisme, si on peut faire un parallèle, qui fait qu'on va, nous aujourd'hui, quand on regarde Bâle III dans les banques, on est face à l'absurde. Donc on a un vrai problème de ce point de vue-là. C'est pas une solution. Quand ensuite on dit la séparation des banques, alors moi je veux bien qu'on défende un côté chrétien, hein, mais je voudrais pas être méchant, mais moi je veux bien que les évêques se prononcent pour certains aspects. Il faut pas être dogmatique, il faut être très prudent. Parce que Lehman, c'était pas une banque de liberté. Et Rock, la société anglaise qui a fait faillite, c'était une banque de dépôt, c'était pas une banque d'affaires. Donc le problème, c'était pas un problème de séparation des activités, c'est un problème de risque et de gestion de risque. Quand nous, dans notre banque, on a pris 1,2 milliard sur la Grèce, on n'était pas crétins. On a été trompés par les administrations, trompés par les autorités françaises, trompés. Ah, on a été trompés. On l'aurait pas pris. Ça, vraiment, je vous assure, dans notre banque, je connais bien ce qu'ont pris la Grèce en 2005. Ils ne l'auraient pas fait s'ils avaient su que c'était pour rigoler. Hein, ça, vraiment, il ne faut pas dire ça. Donc, et je peux vous dire que dans les mutuelles, moi j'ai une soeur à la direction financière d'une mutuelle, elle a pris de la Grèce, hein, et elle ne l'aurait pas fait si elle avait pu éviter. Donc s'ils l'ont fait, c'est que le système est menteur et est imbécile. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents ou qu'ils veulent faire du mal, etc. Pas du tout. Et ensuite, sur l'aspect, le prêt-intérêt, moi, ce que je dis, c'est que quand vous citez Benoît XIV, en 1745, c'était un pape qui était très éclairé, qui était très intéressant, qui était très ouvert aux questions de la philosophie. Et quand il a écrit ce premier, qui était une des premières encycliques jamais écrites sur le prêt-intérêt, il ne l'a pas fait pour condamner le prêt-intérêt. Il l'a fait pour développer une théorie du contrat qui permettait à l'économie de se développer selon l'essor nécessaire tel que l'école de la banque avait essayé de le développer. Donc c'est la gestion du prêt-intérêt est plus compliquée que ce qu'il en est. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que dans l'absolu, le prêt-intérêt est mauvais. Et quand, par exemple, Stéphane Green, dans son livre « Valeurs sûres » dit « c'était très bien d'avoir les protestants » Calvin, qui dit qu'il faut enlever l'Ancien Testament, d'ailleurs vous l'appelez le Premier Testament, regrettable. L'Ancien, si vous voulez, l'Ancien Testament, parce que c'est une citation d'écriture, c'est mieux, et l'Ancien Testament, si vous voulez, ce qui est, il disait on va faire une croix dessus. Et je crois que c'est structurellement important au niveau juridique d'accepter que nous soyons constitués d'un ancien et d'un nouveau, et de respecter ce qu'il y a dans l'ancien. Et ce qu'a fait l'économie moderne en niant l'Ancien Testament et en permettant le prêt à intérêt, il pose problème. Tout en ayant cette contradiction du fait que on essaie de développer des contrats, une théorie des contrats qui permet quand même à l'économie de se développer. C'est pas évident.
Merci, Patrice. Les dernières interventions, on va essayer d'être court, s'il vous plaît.
Anne-Marie.
Je vais être très court.
Anne-Marie.
Une question à Jean-François.
Oui.
Les banquiers au Moyen-Âge n'étaient pas catholiques, puisque dans l'Europe du Moyen-Âge, c'était interdit de prêter à intérêt. Vous avez lu tout à l'heure dans le Lévitique qu'on avait le droit de prêter avec intérêt à l'étranger. Est-ce que c'est par ce biais-là que se justifiait l'activité des prêteurs juifs dans nos villes du Moyen-Âge?
D'accord, ok. Monsieur, Anne-Marie. Juste pour terminer votre point, je pense.
Non, parce que généralement, en fait, d'accord. La technique financière, parce que le problème central, c'est pas plutôt la répartition des richesses, qui fait qu'aujourd'hui, les puissants sont trop puissants et les règles trop faibles, et du coup, menace le vivre ensemble et remet en cause les fondamentaux. Donc, c'est bien à l'échelle nationale qu'à l'international.
Anne-Marie.
Les 40 ans qu'on parle de la taxe, elle est revenue sur le patrimoine. Est-ce qu'elle va rester au niveau des paroles, ou est-ce qu'on a des chances qu'elle soit appliquée? Parce que là, on est vraiment dans le partage. Et pourtant, ça ne semble pas tellement compliqué à faire. Qu'est-ce qu'il y a?
Et monsieur, car la dernière question, la dernière intervention.
Oui, donc moi, c'est pour revenir sur un point qu'a évoqué monsieur Zarek Ndiaye, qui est la zakat. Et parce qu'en fait, celle-ci a une autre vertu et un autre intérêt qu'au-delà de ces 2,5% on va dire imposables sur la richesse de chacun et qui sont annuels, c'est que ces 2,5% ne s'imposent que sur une richesse gelée. C'est-à-dire tout argent qui bouge n'est pas imposable par la zakat. Et c'est ce qui encourage l'investissement. C'est-à-dire toute personne ayant une fortune, si elle veut être dispensée de cette zakat, elle a tout intérêt à investir cet argent. Et tout investissement est bon sur un plan économique, car tout investissement fait croître l'économie et fait aussi circuler l'argent, fait travailler les gens et créer des richesses tout autour. Donc voilà, dans la zakat, en plus du partage de ses richesses aussi, une dissuasion à garder son argent, à le geler, mais plutôt de le réinjecter dans la société et créer une économie.
Merci. Bon, réagir. Oui, alors on va laisser le mot la fin à chacun de chacune des trois traditions. C'est un débat extrêmement vaste qu'on a initié ce soir, qui nous avons pas commencé d'ailleurs, mais on n'a pas abordé toutes les questions. La question, par exemple, des paradis fiscaux n'est pas à monter à la surface, mais enfin, il y a des choses à dire aussi sur tout ce qui est fiscalité. On mettra en tout cas tout ça au maximum à disposition, puis j'essaierai de faire une synthèse autant que possible. Qui veut commencer? Alors, il y a des questions un peu précises sur chacune des traditions que vous avez sans doute notées. Et puis, il y a la question de la taxe utopine et la question plus générique de monsieur qui nous rappelait le thème de départ. Comment sauver la finance mondiale, surtout lorsque la prochaine crise arrivera? Oui, Jean-François.
Comme je suis moins économiste que les autres, pour employer un euphémisme. Bon, je répondrai d'abord à la question de monsieur. En ce qui concerne les prêts au Moyen-Âge, il faut ne pas oublier que, d'une part, c'était presque le seul métier que les Juifs pouvaient exercer, puisqu'ils n'avaient pas le droit de cultiver la terre, ils n'avaient pas le droit de faire des tas de choses, il fallait bien qu'ils vivent. D'autre part, effectivement, vu dans la situation de persécution et à certaines époques, aller considérer que les persécuteurs sont soumis à la règle que le Lévitique donne pour l'étranger, c'est parfaitement compréhensible. Et donc, en fait, il faut s'adapter au monde où on vit. Petite réaction sur le remplacement d'anciens par premier pour le testament. Je vais vous dire comment je le lis en tant que juif. Justement, dans beaucoup de cas, on nous a dit que finalement, le Nouveau Testament remplaçait l'Ancien. Ça a été pendant des années le discours. Alors qu'aujourd'hui, tel que je l'ai compris, le discours de l'Église, c'est plus du tout cela. Et on applique finalement ce qui est dans l'Évangile de Matthieu, que Jésus n'est pas venu pour abroger la loi. Et que donc remplacer ancien par premier, ancien, ça donne l'impression que c'est obsolète. Premier, ça veut dire que c'est effectivement le premier et qu'il continue à être valable. Moi, c'est comme ça que je lis cette relativement nouvelle appellation des chrétiens. Je terminerai peut-être, et ça peut être en même temps une conclusion, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Edgar sur le fait que finalement les finances, elles ont été faites par des juifs, des chrétiens et des musulmans. Elles ont été faites par des hommes qui, d'un côté, font des finances bien ou mal, qui d'un autre côté fréquentent ou ne fréquentent plus les lieux de culte de leur tradition. Et ce que je disais à propos de Margaret Thatcher, qui nous disait que les valeurs de la Révolution française, c'était les valeurs judéo-chrétiennes, il n'y aurait pas eu besoin de la Révolution, à mon sens, il n'y aurait pas eu besoin de faire la Révolution si ces valeurs avaient été effectivement respectées. Et que donc le fait que tel ou tel banquier soit connu pour comme juif ou soit connu comme chrétien, je ne sais pas s'il y en a qui sont connus comme musulmans, mais il y en a sans doute, ne signifie pas qu'ils sont éthiquement juifs, chrétiens ou musulmans. Et je crois que c'est toute la question. Et finalement, les textes, ils sont très beaux. Ce qui serait effectivement intéressant, c'est que un certain nombre de gens se posent la question. Quand je vais prier, et pour ceux qui le font encore, quand je vais prier dans mon lieu de culte, est-ce que je ne fais pas ce que les Anglais appellent du lip service, qui est difficile à traduire, c'est-à-dire la prière des lèvres. Parce que quand on sort du lieu de culte et qu'on fait des actes répréhensibles, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient autres, eh ben, on n'est pas des bons juifs, on n'est pas des bons chrétiens, des bons musulmans, au sens de respecter les prescriptions divines. Et je crois que la question est effectivement avoir une analyse. Si on avait une analyse qui peut être commune, qui consiste à dire les textes fondateurs de nos trois monothéismes, et comme je ne connais pas les autres, je pense qu'ils sont. Tu me défendrais pas. Je pense qu'il y a la même chose dans les religions asiatiques. A priori, ils sont contraires à tout ce dont beaucoup de gens souffrent. Bon, et puis parce qu'on oublie ce que je disais sur le rapprochement entre le mot traduit par charité et le mot traduit par justice, que l'un est le féminin de l'autre. Si on mettait ça en pratique, la société serait certainement très différente. Maintenant, est-ce que c'est réalisable de le mettre en pratique? Parce qu'on a quelque chose qui n'est pas une religion. Mais quand on regarde le communisme, le fondement du communisme, au tout départ, c'est magnifique comme idéologie. Et ça a été immédiatement dérivé vers des choses aussi horribles que le nazisme. Bon, mais on est parti.
Et dans le communisme, il y avait éradication du taux d'intérêt, oui. Hein, dans la mécanique. Hein.
Donc, bon, voilà, c'est à moitié une réponse, à moitié ce que je pense du débat qu'on a ici.
Alors, juste une remarque et une conclusion. Alors, pour la zakat, donc pour être très précis, donc ce qu'on appelle l'aumône purificatrice légale en islam, elle est à la fois sur les avoirs gelés, mais elle est aussi sur les avoirs circulants, ce qu'on appelle zakat l'orod. Pour le commerçant, il est aussi obligé de payer la zakat du moment où il atteint ce qu'on appelle le nisab, qui est de 85 grammes d'or ou de 595 grammes l'argent. C'est-à-dire c'est indexé sur deux matériaux précieux. L'indexation sur l'or, c'était ce qu'on appelait avant l'étalon or, hein, qui a été remplacé aujourd'hui par les billets et machin. Et c'était équivalent à une richesse. C'est-à-dire on était, du moment où on est considéré riche, c'est-à-dire ayant atteint un certain nisab, au passage de l'année lunaire, on était éligible à ce pourcentage. C'est pour ça que chez les commerçants, par exemple, dans nos pays respectifs, on appelle ça la chore, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il a gelé son argent ou pas, de toutes les façons, il y avait zakat, ce qui permettait justement
cet équilibre, d'établir ce partage, ce qu'on appelle le partage, et de ne pas condenser l'argent chez les riches. C'est-à-dire, il y avait effectivement cette obligation divine par rapport au prochain, et aussi cet encouragement à investir l'argent et de ne pas l'épargner. Parce que plus on l'épargne, plus effectivement, il y a cette zakat qui s'impose. Conclusion, juste pour terminer, pour en ce qui me concerne la réflexion que j'ai essayé de mener à travers effectivement les textes de l'islam et à travers aussi la vision de la finance islamique théorique et non pas pratique, parce qu'en pratique, comme on dit toujours, il y a la religion et les hommes. Très simplement, les valeurs universelles qu'on connaît et qui nous réunissent tous, un de mes maîtres dans la religion me disait « l'eau est une et les fleurs sont multiples ». L'eau est une, les fleurs sont multiples. Encore une fois, pour que cette fleur garde toute sa brillance et sa beauté et son innocence, il faut la protéger, c'est-à-dire il faut qu'elle continue à s'orienter vers le soleil et s'irriguer de l'eau. Si quelqu'un lui voile cette vision du soleil, cette alimentation verticale, eh bien, elle est dénaturée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre finance actuelle et dans notre système actuel, c'est qu'on est dénaturé, on est déraciné, c'est-à-dire entre ceux qui, tout en croyant à Dieu, ne font pas confiance à Dieu, c'est-à-dire ils disent que finalement, notre pensée défaillante, je ne nie pas l'intelligence, mais notre pensée est défaillante, notre imagination est une création de Dieu, pour ceux qui croient à Dieu, bien sûr. Par notre ego, on a refusé de la soumettre à ce qu'on appelle la révélation. Ça, c'est donc le problème de la rupture entre la religion et la finance. Ensuite, il y a effectivement cette volonté de l'homme de s'affranchir de Dieu et de construire sa propre cité basée sur sa propre réflexion, ce qui a fait tous ces balbutiements, tous ces essais, parfois qui se soldent par des échecs, et donc on revient à ce qu'on appelle cette argile, c'est-à-dire ce côté argileux de l'être humain, c'est-à-dire sa tendance vers son penchant terrestre, qui fait qu'il oublie son origine lumineuse, il oublie que s'il s'oriente vers le divin et s'il fait confiance au divin et à ce que Dieu a voulu de lui sur cette terre, eh bien on réussira ensemble à construire un monde meilleur. En tout cas, c'est ce que je pense et j'espère que la religion ne sera pas une entrave, parce que les guerres de religion, ce n'est pas à cause de la religion, c'est à cause de l'instrumentalisation de la religion, donc du problème de l'interprétation, et non pas de la religion en elle-même. Et je dis toujours, l'intégrisme n'est pas dans les textes, mais dans l'esprit du mauvais lecteur. Merci.
Moi, une réaction à une des questions et qui va m'amener à la conclusion. Réaction à ce que vous avez dit en disant « mais nous avons été trompés par les agences de notation ». Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que ce qui est frappant dans l'analyse d'un certain nombre d'acteurs, c'est qu'ils sont de bonne foi. Ils sont de bonne foi, mais ils ont participé à un grand jeu qui s'appelle « Je te passe la patate chaude » jusqu'à ce que quelqu'un récupère la patate chaude et se brûle, sachant que tout le monde implicitement savait que cette personne serait nécessairement l'État et le contribuable, dans une certaine mesure. Hein. Et ce qui renvoie à ce moment-là à la question justement d'essayer de sortir de cette espèce d'approche circulaire, d'approche extrêmement court-termiste, comme le disait Tariq, extrêmement, j'allais dire, matérialiste. Et moi, comme conclusion, pour répondre au sujet qui nous était imparti, est-ce que les religions peuvent sauver la finance mondiale? Moi, je dis oui, les religions et les valeurs transcendantes. J'inclus, j'allais dire, comme juriste, j'inclus peut-être ce que dans une société laïque, on appelle des valeurs de type de niveau constitutionnel, finalement. Certains, le magistère dit qu'il y a des rapprochements, etc. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je pense que, oui, les religions peuvent, ou des valeurs transcendantes, peuvent et même doivent sauver la finance, et même essayer de sauver l'économie, et donc finalement nos sociétés. Parce que dans cette approche court-termiste, matérialiste,
Il faut absolument avoir référence à des valeurs qui soient hors de ce système. Voilà. En tout cas, je tiens vraiment à remercier Marc d'avoir organisé cette conférence, parce que c'est la première fois, moi, que j'échange avec, pas tellement avec des musulmans, parce que j'ai un petit peu travaillé sur la finance islamique, mais je suis extrêmement, extrêmement content qu'on puisse avoir ce dialogue à trois. Merci.
Juste un mot, parce qu'il est tard. Pour sauver la finance mondiale, avec toutes les limites qu'il faudrait mettre à sauver, hein, je crois beaucoup quand même à l'instance politique. Je ne pense pas que ça se fera sans une intervention du politique, à un niveau le plus élevé possible dans l'échelon international. Et ça, où est-ce qu'on peut y contribuer, nous, au niveau personnel? C'est dans la campagne. Aujourd'hui, on est en campagne présidentielle. On a encore le droit de voter en France. Peut-être pas pour très longtemps, mais on a encore ce droit maintenant. Il faut le faire.
Des noms.
Vous voyez ? Et donc, alors, pour être plus précis, je crois vraiment à la nécessité d'une régulation des marchés financiers. Et cette régulation, elle ne viendra pas des acteurs financiers, parce qu'ils n'en voudront pas. Hein, autant demander à un chauffard d'édicter lui-même le code de la route, il ne le fera jamais. Donc c'est aux politiques de le faire. Et les politiques ne le feront que sous la pression de l'opinion publique qui les obligera à le faire. Sinon, ils ne le feront pas. Alors ça, c'est une grande question, et ça rejoint, et je vais m'arrêter là, hein, ça rejoint un peu la remarque que vous avez faite, avec laquelle je suis en partie d'accord. Je ne veux pas rentrer dans le débat technique, mais c'est vrai que l'imposition de Bâle 3 maintenant pose un vrai problème de timing, je suis complètement d'accord. Donc le régulateur doit être intelligent.
En tout cas, Bâle 3, sinon...
Voilà. C'est des règles, si vous voulez, c'est des règles qui réglementent la manière dont une banque a le droit ou non de donner des crédits. Je ne rentre pas dans les détails. En fonction de ses fonds propres, il n'y a pas que ça, mais bon, voilà, après, vous voyez. Or, c'est vrai qu'en ce moment, comme les banques sont en difficulté, si vous corsetez un tout petit davantage, ça va être plus difficile pour elles de donner des crédits. Alors, je ne crois qu'à moitié à cet argument, mais il a du vrai. Enfin, je veux dire, je suis en partie d'accord. Vous voyez. Ça veut dire que réglementer, ça doit être fait de manière intelligente. C'est ça la conclusion que j'en retire. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de réglementer. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous voyez. Maintenant, on est capable d'avoir chaque année des corps de polytechniciens qui vont travailler à la City pour faire des produits structurés complètement déments. On est aussi capable d'avoir les mêmes polytechniciens pour avoir des réglementations intelligentes. Oui.
Sauvé par l'école polytechnique, alors. Merci beaucoup à tous. Les livres sont à disposition si vous voulez les acheter et avoir des signatures. Et on fera une synthèse disponible sur Internet. Merci.
Ah, on n'a pas parlé de...
Bah, c'est ça que je te disais de prendre.
Un
tout petit dernier mot.
Juste une information, et tu pourrais aller voir. La Fraternité d'Abraham est en train de publier sur souscription un exemplaire hors série de sa revue qui s'appelle Éthique et économie. Et on a quelques formulaires permettant de le commander et avec aussi le sommet. Donc Roland Burus qui est ici en particulier, qui est le responsable de cet ouvrage,
il lève la main.
Est à votre disposition.
Et il lève la main. On le voit. Voilà. Et on peut effectivement plier les chaises et les mettre du côté gauche, s'il vous plaît. Pour moi. Côté gauche pour moi, ouais, de ce côté-là. Côté gauche.